Ouais. Voilà. Donc intuitif analytique, heuristique, le biais émotionnel. En rhétorique, c'est l'appel à l'émotion. Voilà, si tu fais ça, tu vas faire souffrir ta mère. Appel à l'émotion pour inciter à ne pas le faire. Et le biais de confirmation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou d'accord? Ou des choses que vous voulez rajouter ou des questions par rapport au fonctionnement du cerveau et au biais cognitif? Tout va bien? Ok. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Question très simple. C'est quoi le but d'un réseau social? Pardon, dites-moi.
Partager des infos.
Très bien. Tout à fait. Tout à fait, très bien. Je suis d'accord. Maintenant, la question, je nuance un petit peu, c'est quoi le but du réseau social? C'est quoi le but de Facebook? Pas votre utilisation de Facebook. Le but de Facebook, faire de l'argent. Très bonne raison, très simple et je pense parfaitement vrai. Le but d'un réseau, comme de n'importe quelle entreprise, c'est de faire de la thunasse. Comment est-ce que Facebook, par exemple, fait de l'argent? Sur la pub. Très bien. Comment est-ce que Facebook fait en sorte que vous regardez de la pub?
En proposant des infos qui donnent envie et qu'on clique sur le lien pour aller dessus.
Tout à fait. Il y a deux choses. Il y a déjà Facebook, je vous apprends rien, c'est un aspirateur à données phénoménal, donc il vous connaît parfaitement, et donc les pubs sont plus ou moins ciblées. Deuxième chose, plus vous restez sur Facebook, plus vous allez voir de pubs. Donc le but d'un réseau, c'est que vous restiez sur Facebook. Enfin, de Facebook, c'est que vous restiez sur Facebook. Il y a quelques années, le patron de Netflix a dit une phrase assez incroyable. Il a dit « Mon plus grand ennemi », donc Netflix, sa plateforme de films et de séries, « Mon plus grand ennemi, c'est pas Facebook, c'est pas YouTube, c'est... » Et à votre avis, c'était quoi ?
Le sommeil.
Le sommeil. Voilà. Et on a tous connu ce moment où il est 4h du matin et on a vu 5 séries d'affilée et on n'a pas vu le temps passer. Parce que Netflix est redoutable pour nous faire rester sur Netflix. Facebook essaie de nous faire rester sur Facebook. Instagram, c'est pareil. TikTok, c'est pareil, etc., etc. Pour ça, ils vont faire quelque chose qui est assez... Hop, non, c'est pas ça. Ouais. Je vois juste quelque chose. 19h. Très bien, on a encore plein de temps. Ils vont faire un truc assez... Voilà. Assez connu et très redoutable qui s'appelle une bulle de confirmation. Et pour ça, on va parler de notre ami Hervé, qui est quelqu'un de très sympathique, père de famille, drôle, etc., et qui pense que la Terre est plate. Voilà. Donc, il est ce qu'on appelle un platiste. Alors, pourquoi est-ce qu'il pense que la Terre est plate? Généralement, ça va être je vois que l'horizon est plat, donc la Terre est plate. Voilà, on va croire nos sens. De même qu'on pense que les cases du jeu d'échecs sont de la même couleur. Ne sont pas de la même couleur. Ensuite, il va aller sur Facebook. Il va aller sur Facebook et il va s'inscrire à un groupe de gens qui pensent que la Terre est plate. Alors ce qui est paradoxal, c'est que des gens donc, vont dire sur Facebook que la Terre est plate. Facebook fonctionne grâce à Internet. Internet fonctionne grâce à des satellites. Satellites qui ne fonctionnent que parce que la Terre est ronde. C'est un peu le paradoxe des platistes. Mais bon, voilà. Ils pensent que la Terre est plate et ils s'inscrivent à un groupe de platistes. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Que va faire Facebook après ça? Il va prendre cette information-là et qu'est-ce qu'il va en faire?
Alimenter la confirmation
avec d'autres aussi. Biais de confirmation. Moi, alors, pour anecdote personnelle, quand les Gilets jaunes ont éclaté en 2017, je crois, ça m'a beaucoup intéressé. Enfin, j'ai fait sciences politiques, ça m'intéressait beaucoup. Et je savais qu'ils avaient grandi grâce à Facebook, et donc je me suis inscrit sur un groupe de Gilets jaunes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que durant deux semaines, tous les jours, dès que je me connectais, les premières informations que je voyais, c'était sur les Gilets jaunes, des suggestions pour d'autres groupes de Gilets jaunes. Et en soi, c'est très bien, c'est pas un souci. Mais Facebook s'est dit, ok, toi, ça t'intéresse, je vais te gaver de cette information. Fake news ou vraie information, peu importe, ça va juste orienter ma manière de voir le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense beaucoup de partis avec très peu de votants sont surreprésentés sur des médias, sur des réseaux, et les gens qui votent pour ces partis-là ne comprennent pas qu'ils soient aussi peu importants dans les urnes. Durant l'élection présidentielle précédente, il y avait François Asselineau, qui a dû faire 0,3%, qui est un candidat, mais les électeurs de Asselineau étaient à fond sur les réseaux. Et donc, il y avait une sorte de bulle de confirmation où chacun se connaissait en disant « Mais Vu toutes les personnes qu'on connaît qui votent à Solino sur des réseaux, forcément, il va cartonner quoi, aux élections. 0,3%. Mais voilà. Donc, la bulle de confirmation, en gros, c'est l'algorithme du réseau qui se dit, donc, toi, ça t'intéresse, donc je ne vais que te donner des informations qui confirment ce que tu penses déjà. Parce que si un jour, Facebook dit à Hervé, en fait, la Terre, elle est ronde, bah, il va dire, bah, je me casse. Et ça, Facebook, il n'aime pas. Facebook est amoral. Il se fiche de savoir si l'information est vraie ou pas. Ce qu'il veut, c'est que tu restes sur Facebook. Et donc, il va te donner plein d'informations. Il va te faire rencontrer plein de personnes qui pensent que la Terre est plate. Et voilà, ça va confirmer Hervé de ce qu'il pense. Il voit que les gens autour de lui pensent que la Terre est plate. C'est la preuve que la Terre est plate. Il voit que des vidéos qui disent que la Terre est plate. Donc, il se dit, bah, comme toutes les informations disent que la Terre est plate, c'est les médias qui nous mentent, mais moi, j'ai raison, etc., etc., etc. Le principe de la bulle de confirmation, c'est que ça te donne l'illusion que ce que tu dis est vrai. La bulle de confirmation plaît à ton biais de confirmation qui plaît à ton cerveau, donc il reste sur Facebook. Il y a des conséquences encore plus graves que simplement penser que la Terre est plate. Par exemple, qu'il y avait le seul média, le seul réseau social en Russie, non russe, qui est encore autorisé. Parce que Instagram, c'est mort, Facebook, c'est mort, Twitter, c'est mort. C'est quoi le seul réseau social ? TikTok. Et TikTok est accusé, justement, d'être autorisé parce qu'il ne présente des vidéos pro-russes aux Russes. Et pas des vidéos qui... Parce que bulle de confirmation. Et on ne se rend pas compte, parce que quand on est en train de scroller, on ne se rend pas compte que l'information est sélectionnée pour nous. Si on regarde la télé, on sait que TF1 est un peu à droite, ou que CNews est un peu à droite. On sait que France Inter est un peu à gauche. C'est vous qui l'avez dit, que France Inter est plutôt à gauche. Et donc, on peut se dire, OK, je sais un petit peu quelle est la position de ceux qui me parlent. Je sais que c'est orienté. Sur des réseaux, on ne se rend pas compte. Et donc, on est beaucoup plus naïf face à l'information. On se dit, si elle m'arrive devant les yeux, c'est parce que j'ai choisi moi-même, et donc c'est la preuve que j'ai raison. C'est pareil pour Google. On pense que les informations sur Google sont les mêmes pour tout le monde, c'est en fonction de l'algorithme. Tout ça, ça oriente. Et YouTube est redoutable pour ça. Des vidéos suggérées, c'est incroyable. Moi, très régulièrement, et ce qui est assez inquiétant, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on reste sur des réseaux ? C'est l'émotion. Qu'est-ce qui marche en termes d'émotion ? C'est les fake news. Dire que le vaccin a tué la moitié de la population, ça provoque plus d'émotion que dire qu'il n'a pas fait. Je caricature, mais vous voyez l'idée. Et moi, par exemple, sur YouTube, je regarde 2-3 vidéos sur les vaccins, mais des vidéos, on va dire, officielles, de debunking. En suggestion, j'ai plein de vidéos complotistes sur les vaccins. Parce que YouTube se dit, bon, ce sujet l'intéresse, ces vidéos-là ont un engagement de personnes plus important, parce que si tu es impacté émotionnellement, tu vas laisser un petit commentaire, tu vas partager la photo, la vidéo, donc voilà. Et donc, YouTube nous pousse peu à peu vers du contenu complotiste, parce que c'est ce qui nous génère le plus d'engagement. Soit on est outré par le complot, donc on va dire qu'on n'est pas d'accord, soit on est d'accord avec le complot, on va dire qu'on est d'accord. Et en tout cas, il y aura plus d'engagement, parce qu'on est plus ému, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ça. Cette expérience-là, donc l'expérience de Bartlett, qui date des années 30, donc ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas ? Elle utilise le principe du téléphone arabe, que vous connaissez certainement. Je vous dis une phrase, vous la répétez, vous la répétez, vous la répétez, et à la fin, la phrase n'a plus rien à voir. Généralement, elle est très drôle ou absurde, et ça, c'est intéressant, on va voir pourquoi. Il a fait pareil avec des dessins. Donc il a pris un premier dessin, une espèce de masque, et il a dit, bah, tiens, tu vas me redessiner le masque, et vous avez fait ça. Et ce dessin-là, vous l'avez dessiné une nouvelle fois. Et vous avez fait ça, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on voit à la fin ? On voit que, peu à peu, l'image prend du sens. Encore une fois, parce que, comme je vous l'ai dit, l'être humain cherche à donner du sens là où il n'y en a pas. Pareil avec le hibou qui, peu à peu, devient un chat. Mais ce qui est très intéressant, parce que ça, on le sait, c'est qu'en fonction du groupe de personnes à qui il faisait subir l'expérience, les dessins à la fin n'étaient pas les mêmes. Si je donne ce dessin à un peuple qui n'a jamais vu un chat de sa vie, ça ne va pas être un chat à la fin, ça va être autre chose. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'en fonction de leur culture, de leurs préjugés, de leurs stéréotypes, les gens vont déformer une information vers un but bien précis. Et ça, ça se concrétise sur les réseaux sociaux, où une information, quand elle est partagée, elle est déformée un peu plus à chaque partage, dans le sens des convictions des personnes qui la partagent. Or, but de confirmation, les gens ne partagent que des informations avec des gens qui pensent comme eux, parce qu'ils ne sont mis en contact qu'avec des gens qui pensent comme eux. Donc reprenons l'exemple de la Terre plate. Si la Terre est quoi si elle n'est pas plate ?
Ronde.
Elle n'est pas ronde, elle est ovale. Mais imaginons que Hervé tombe sur un article qui dit, d'un scientifique, la Terre n'est pas la Terre n'est pas ronde, elle est plate. Excusez-moi, la Terre n'est pas ronde, elle est ovale. Ce qui est vrai. Rond, c'est une approximation, en fait. Bon. Et que cette information se partage de platiste en platiste, puisque, but de confirmation, entre guillemets, ils restent entre eux. Et bien, l'information va être déformée dans le sens des croyances du groupe qui la partage. Et donc, de la Terre n'est pas ronde, elle est ovale, on va passer à la Terre n'est pas ronde. Et à la fin, ça va être preuve que la Terre est plate. Un scientifique admet que la Terre est plate. Là, c'est caricatural. Mais imaginez, par exemple, qu'on ait un article par un scientifique estime qu'il faut plus d'études pour juger du bénéfice du vaccin pour les femmes enceintes. Et à un moment, le vaccin était là, mais on avait peu d'études sur les femmes enceintes. Non pas qu'on pensait que c'était dangereux, mais on ne savait pas trop si le rapport bénéfice-risque était positif. Puisque c'est ça, c'est comme ça qu'on définit si un médicament est bon ou pas. C'est qu'il faut qu'il y ait plus d'avantages que d'inconvénients. Et donc, il y a cet article, cette information qui est un peu compliquée, qui est nuancée, qui n'est pas très impactante émotionnellement, qui arrive dans un groupe de personnes qui pensent que le vaccin est dangereux. Qu'est-ce qui va se passer? L'information va être partagée. Et de un scientifique estime qu'il faut plus d'études sur les femmes enceintes pour juger du rapport bénéfice-risque, on va être à un scientifique estime qu'il y a un danger pour les femmes enceintes. Un scientifique admet que le vaccin est dangereux pour les femmes enceintes. Et on arrive vers quelque chose de plus en plus déformé. Ce qui est intéressant, c'est que l'information de base est vraie. L'information à la fin est fausse. C'est une fabrication de fake news, littéralement. Inconsciente. Quand je parlais des fake news au début, je disais que c'était une information qui était fausse par rapport aux informations qu'on avait, mais ce n'est pas forcément volontaire. Tous ceux qui partagent des fake news ne sont pas juste des petits machiavels qui sont là et qui savent qu'ils partagent une fausse information. Et je pense même que la plupart des gens ne savent pas qu'ils partagent des fake news. Et je pense même que vous tous et moi aussi, on a déjà partagé des fake news de bonne foi, pensant que c'était la vérité, la réalité. Donc ça, et donc en fait, on a une sorte de triple influence. Déjà, le cerveau va toujours confirmer ce qu'il croit déjà. Sur les réseaux, il est mis en relation avec des gens qui pensent comme lui. Et en plus, dès qu'il y a une information, elle va être transformée pour correspondre à ce qu'il pense déjà. Et c'est comme ça qu'on arrive à des cas, déjà à des scissions extrêmes sur les réseaux où des gens ont l'air de s'affronter sans arrêt. Et des gens qui vont être convaincus d'une chose sur des réseaux alors que c'est faux. Et rajoutons à ça que sur des réseaux, notamment Twitter, 93% des messages qui sont postés ne sont même pas vus, même pas lus. 5% sont partagés une seule fois, 1% deux fois, 0,3% trois fois. Et la fameuse viralité où des choses sont partagées plusieurs fois, ça concerne moins de 0,3%. Donc les messages viraux que vous voyez sur les réseaux, pour ceux qui sont sur les réseaux, ce n'est qu'une infime proportion de tous les messages qui sont postés. Et généralement, pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent mieux, ceux-là? Parce qu'ils vont être plus impactants, plus émouvants, ils vont confirmer ce qu'on pense déjà, etc. etc. Et donc on va avoir une déformation de l'information qui nous est présentée, et on va penser que l'information qui nous arrive devant les yeux représente l'état du réseau social, représente l'ensemble des informations qu'on a, mais en fait, c'est une infime minorité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, c'est un point un peu complexe. Et si vous avez du mal...
Moi, c'est les deux derniers.
OK. Alors, comme on a un peu de temps, on en profite. Donc, Twitter, c'est un réseau où on partage des textes de 280 caractères, donc très petits, ce qui incite à beaucoup de raccourcis. Et quand on regarde un peu Twitter, on voit plein de messages qui sont émis des centaines, des milliers de fois, et on se dit c'est la norme en fait. C'est une juste représentation des informations qui sont sur ce réseau. Mais il s'avère que ce n'est pas vrai du tout, que 93% des messages postés sur le réseau ne sont même pas vus, donc ils sont invisibles à nos yeux, que seulement 5% des messages sont émis une seule fois, un seul like ou un seul partage, que 1% sont émis deux fois, 0,3% sont émis trois fois. Et là, en fait, rajoutez une flèche ici et imaginez que c'est là qu'on arrive sur le buzz sur les images, les textes viraux sur les réseaux. C'est ce qui nous est mis en priorité devant nos yeux parce que le réseau se dit bah, si des millions de gens ont aimé ce poste, ça va te plaire à toi aussi. Mais c'est qu'une infime minorité de tous les messages qui sont présentés sur le réseau. Il y a beaucoup de déchets, en fait. Et si vous ne comprenez pas, Je vais vous montrer une petite expérience hyper intéressante qui devrait vous aider à y voir un peu plus clair. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais se battaient contre les Allemands. Jusque-là, je ne vous apprends rien, j'espère. Et dans une base anglaise, en fait, il y a un truc qui était très bizarre. Alors, je vous préviens, je suis extrêmement mauvais en dessin. Donc, je vous invite à me pardonner d'avance. Bon, maintenant, je peux y aller. Voilà. Donc, ça, c'est un palmier. Non, c'est... Ça, c'est... Je vais tenter de faire un avion. On est pas mal. Enfin, par rapport à ce que je fais d'habitude, on est pas mal. Ça, c'est biais d'ancrage. Moi, je me base sur ce que j'ai fait avant, donc pour moi, c'est très bien. OK, donc ça, c'est un avion. Et en fait, les Anglais ne comprenaient pas. Les seuls avions qui revenaient à la base avaient le bout des ailes criblées de balles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation ? Il n'y a pas de piège. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, tous les avions qui rentrent ont le bout des ailes criblées de balles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation ? Est-ce qu'il faut quelle partie de l'avion, par exemple, il faut renforcer ? Pardon ? Le bout des ailes. Voilà. Les balles sont ici, il faut renforcer le bout des ailes. Ça, c'est une erreur de raisonnement. Je vais vous expliquer. Oui, mais là, on parle juste en termes pour renforcer quelle partie de l'avion il faut renforcer. Si vous pensez le bout des ailes, c'est une erreur. Parce que la véritable raison, la véritable chose à renforcer, c'est cette partie-là. C'est la partie qui n'a rien. Pourquoi ? Je sais que ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, une fois que vous aurez compris ce principe, c'est hyper révélateur. Non, ce n'est pas d'aéronautique, c'est de la logique pure. Non, il faut renforcer la partie des ailes qui n'a pas été impactée par des balles, et pas la partie qui a été impactée par des balles.
Ah oui ? Ouais. Parce que si elle casse, c'est plus important.
C'est pas ça. C'est pas ça. Si l'avion a pu rentrer à la base avec des balles ici, ça veut dire que cette partie-là n'est pas importante. Tous ceux qui ne sont pas rentrés à la base ont été touchés ailleurs. Donc c'est des parties qui ne sont pas impactées par les balles qu'il faut protéger. Vous voyez ? Ça, en fait, ça c'est quelque chose de très important qui s'appelle le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est le fait qu'on ne tire des conclusions que des gens qui ont gagné, que des vainqueurs, que des avions qui sont rentrés à la base. Et on oublie tous ceux qui ont perdu. Alors ça marche pour les avions, où même si c'est contre-intuitif, il faut protéger ce qui n'a pas d'impact, puisque c'est la preuve que si on est touché ici, on ne peut pas rentrer à la base. Mais appliqué de la vie de tous les jours, moi, ça va être tous les gourous qui nous expliquent que pour être milliardaire, il faut se lever à 5h du matin parce que Bill Gates se lève à 5h du matin. Peut-être qu'ils se lèvent à 5h du matin. Mais combien de gens se lèvent à 5h du matin et ne sont pas Bill Gates ? Peut-être que ce n'est pas ça la raison du fait qu'ils soient milliardaires. Ça, c'est le biais du survivant. On se base que sur ceux qui ont réussi. 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est vrai, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont tenté et ont perdu. OK ? Pourquoi je dis ça ? Est-ce que vous voulez qu'on reste un peu plus là-dessus ? Est-ce que c'est clair pour vous ? C'est pas clair ?
Si.
Ah. Et c'est pour ça que tous ceux qui vont vous dire « success story ben moi, si j'ai gagné, c'est grâce à ma passion, c'est grâce à mon investissement, mon engagement, je dormais 3 heures par nuit, c'est pour ça que j'ai réussi », peut-être. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait pareil, qui n'ont dormi que 3 heures par nuit et qui ont raté. Donc, ce n'est pas ça l'élément principal. Et généralement, l'élément principal du succès, c'est la chance. Et ça, on n'aime pas l'admettre. Ce qui se comprend, parce qu'on aime bien quand les choses ont du sens. Donc, si on rapplique ça aux réseaux sociaux, les messages qui nous parviennent, les messages qui sont aimés et likés des milliers de fois, c'est juste ces messages qui ont survécu. Le biais du survivant nous enseigne que c'est qu'une infime minorité de toute information qui est sur les réseaux et qu'on ne voit pas, qui n'est pas rentrée à la base. Et ça, c'est important à mon sens parce que ça nous offre une information qui est complètement déformée. Ça ne nous montre que des messages qui ont réussi et qui ont réussi, à mon sens, à cause des biais d'émotion, d'appel à l'émotion, etc., etc., etc. On est bon là-dessus ou pas ? Ouais, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Maintenant, on fait quoi ? Maintenant qu'on sait que notre cerveau confond les couleurs, fait des raisonnements complètement fallacieux, il pense à 10 centimes alors que c'est 5 centimes, est sujet à l'émotion et ne cherche qu'à confirmer ce qu'il pense déjà et qui fonctionne à l'intuition avant tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça, pour justement vérifier l'information comme on devrait faire ?
On ne peut pas réduire ce coup d'émotion.
Tout à fait. Se méfier de soi-même, on est d'accord. Moi, j'ai... En fait, J'ai une méthode en trois étapes. La première, c'est à très très court terme, c'est-à-dire quand on doit, quand on veut partager l'information, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, ce que je fais, c'est ça. Je compte jusqu'à deux. Et je compte jusqu'à deux, ça me fait passer de l'intuitif à l'analytique. Parce que peut-être que je partage parce que ça me fait rire, je n'ai pas vérifié, ça me fait peur, je suis angoissé, j'ai mal dormi. Un, deux, non, en fait, je n'ai pas envie de partager ça. Un, deux, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment envie de partager ça ? Et une fois sur deux, la réponse est non. Et ça, c'est un moyen de limiter l'info. Pourquoi c'est important ? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Parce qu'une information, une fake news, ça a été prouvé, se propage beaucoup plus rapidement qu'une vraie information. Beaucoup plus rapidement. Si vous mettez une fake news, genre le pape est mort, et que juste après vous mettez erreur, le pape n'est pas mort, la fausse information va se partager beaucoup plus vite. Parce qu'une fausse information est plus impactante, plus émouvante, plus anxiogène, et donc on va être plus viral. De fait. Si on prend deux secondes pour réfléchir, on se dit « Attends, mais c'est peut-être n'importe quoi, je ne partage pas. » Ok ? Deux secondes. Ça suffit à passer de l'intuitif à l'analytique. C'est la personne qui m'a dit « l'eau », elle a eu le temps de passer de l'un à l'autre.
Mais quand on a 10 ans, 12 ans, on ne prend pas le temps de...
Pardon ?
Quand on est très jeune, 10, 12,
15 ans... Ah, alors, permettez-moi de débunker une autre fake news. Sur Facebook... La tranche d'âge qui partage le plus de fake news sont les plus de 60 ans. Ouais. Une des raisons, à mon sens, ça c'est ma théorie à moi, une des raisons c'est que les ados, déjà, ont grandi avec Internet, donc ils savent qu'il faut se méfier, et on les bombarde de « faut vérifier ». Une personne qui découvre Facebook à 50-60 ans va avoir un seuil de confiance plus grand sur ce qu'elle voit, je ne sais pas pourquoi, parce que ça s'apparente à un article de journal, par exemple, et donc va... naturellement apporter plus de confiance à ce qu'elle voit et donc partager. Donc voilà, donc je pense, et sincèrement, le partage des fake news, ça n'a pas de génération. Tout est génération. Croyez-moi, j'ai des parents qui sont sur les réseaux.
Le cerveau se fatigue aussi, 60 ans.
Excusez-moi ?
Le cerveau fatigue à 60 ans.
Je n'irai pas sur ce terrain-là, je vous laisse assumer ça.
Non, je peux me permettre.
Bah, c'est pour ça que je vous laisse faire. Un autre adage que j'ai, si une information est trop belle pour être vraie, elle est vraisemblablement fausse. Parce que si elle paraît trop belle pour être vraie, déjà, c'est notre intuition qui parle, c'est parce qu'elle est émouvante, c'est parce qu'elle confirme ce qu'on pense déjà, c'est parce qu'elle nous fait rêver, c'est parce qu'elle fait appel à nos émotions, à notre biais de confirmation, et pas forcément à la raison. Deux exemples. Un exemple que j'ai vu il y a quelques années déjà, mais que j'aime bien. La vie sera trouvée sur Mars d'ici 2 ans, selon ce scientifique de la NASA. Si on est une petite fleur d'astronaute, alors on a envie d'y croire, on se dit, c'est incroyable, on n'est pas seul de l'univers, c'est génial. Il s'avère que si on creuse un petit peu, forcément l'article est une reprise d'un article en anglais, et si on clique sur l'article en anglais, ce n'est pas du tout ce qui est dit, c'est juste qu'on a trouvé un peu de glace sur Mars. Donc ce n'est pas vrai, c'est une pure fake news, mais le journal l'a mise en avant, notamment parce que, aussi, l'économie financièrement, un journal pour qu'il fonctionne sur Internet doit donner envie de cliquer. Et comment est-ce qu'on donne envie de cliquer ? Grâce à l'émotion, ce genre de choses. Ensuite, j'ai vu ça, il y a une semaine, du jus de citron pour lutter contre le sida. Bon, là, c'est tellement gros que même à l'instinct, on sait que c'est mauvais. Mais voilà, l'idée, c'est... Moi, je serais ravi si c'est vrai, ça. Je serais ravi. Enfin, quoi. Petite décoction tous les soirs et c'est bon. Mais c'est pas vrai. Et si on creuse un petit peu, on lit l'article. Les experts de la lutte contre le sida préviennent qu'actuellement, aucune preuve n'a encore été apportée. Pourquoi tu fais un article, alors ? Sur l'efficacité de protection du jus de citron chez la femme. Et ensuite, il parle d'expérience in vitro. Et là, si on connaît un petit peu, de in vitro, c'est d'autres pétris, là. 9 fois sur 10, même 99 fois sur 100, ce qui marche in vitro ne marche pas chez l'homme. Une corpo, merci. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de soucis de fake news sur le virus, parce qu'on disait, oui, mais ce traitement-là marche très bien in vitro. Oui, mais beaucoup de choses marchent in vitro. Il faut attendre l'expérience sur les individus. OK ? Donc ça, c'est à très court terme. Vraiment, un, deux, et quand ça a l'air trop beau pour être vrai, red flag, je sens que c'est mauvais. À moyen terme, maintenant, je pense à ce mot. C'est quoi Meta ?
C'est la holding de Facebook.
Voilà. Mais le mot, parce qu'ils se sont accaparés ce mot, ils ont fait une OPA sur le mot, mais le mot Meta, avant ça, veut dire quoi ? Métaphysique, c'est quoi ?
C'est global.
C'est au-delà de la physique. La métacognition, donc la cognition, c'est le fonctionnement du cerveau. Métacognition, c'est avoir conscience qu'on a conscience. C'est une étape au-dessus. Un film qui est méta, c'est un film qui a conscience qu'il est un film. Deadpool, si vous connaissez, est un film méta, parce que le personnage principal, Deadpool, sait qu'il est dans un film, et il parle directement au spectateur. Voilà. Ça, c'est méta, c'est aller au-delà des apparences. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, voilà, je vais réfléchir sur ma manière de réfléchir. Quelle est ma position sur cette information? Est-ce que j'ai envie d'y croire? Si j'ai envie d'y croire, je suis dans le biais de confirmation. Ça ne veut pas dire que l'information est fausse, ça veut dire que je vais être tenté de croire qu'elle est vraie. Est-ce que je suis ému par le message? Si je suis ému, ça ne veut pas dire que le message est faux, ça veut dire que je serai tenté d'y croire, encore une fois. Donc juste réfléchir un petit peu à notre manière d'interpréter la réalité et l'actualité. Je vous donne un exemple qui va peut-être faire un peu polémique, mais j'aime bien. Si, par exemple, je pense que les OGM, c'est pas bien, que c'est dangereux et que mon oncle est mort des OGM, et que je vois cette couverture, oui, les OGM sont des poisons, est-ce que je vais être tenté de croire que c'est vrai ou que c'est faux, cette couverture? Pourquoi est-ce qu'il parle des OGM? Bon. Je vais avoir tendance à penser que les OGM sont, oui, des poisons, parce qu'à la base, je pensais que c'était des poisons. Voilà. Donc, ma position sur cette actualité n'est pas neutre. Voilà. Est-ce que les OGM sont des poisons? Je vous laisserai faire vos recherches par rapport à ça, mais il y a ce que l'on pense et ce que dit la science. Je ne dis que ça. Et la science n'est pas forcément corrompue. Qu'est-ce qui me ferait changer d'avis? Ça, c'est important. Je vais reprendre mon ami qui pense au chemtrail. Lui, je pense que rien ne lui ferait changer d'avis. Il va toujours être persuadé qu'il y a du produit chimique dans les avions. Dans ce cas, pour moi, il n'est pas dans une recherche de connaissance ou de vérité, il est dans une croyance. Mais je ne vais pas l'accuser, parce que moi aussi, ce serait dur de me convaincre qu'il y a bel et bien du produit chimique. Donc, je dois être prêt à accepter que c'est peut-être vrai s'il y a un niveau de preuve suffisant. Si je vois des pilotes certifiés qui disent « bah ouais, en fait, on le fait », je vais commencer à changer d'avis. Si je vois vraiment des rapports, etc., qui ont l'air authentiques, je vais commencer à changer d'avis. Dans ce cas, je ne suis pas dans une croyance pure, je suis dans une recherche de vérité. C'est la différence entre croyance, voilà. Et c'est pour ça que... Et ce que j'aime bien me demander aussi, c'est à combien de pourcentage je juge qu'une idée est vraie ou pas. Alors, ça a l'air un peu rébarbatif comme ça, mais si je suis sûr à 100% de quelque chose, ça veut dire que rien ne fera changer d'avis. Si, par exemple, les vaccins, je pense que l'information des vaccins fonctionne, j'y crois à 85%. J'y crois, mais ça se trouve, quelques études vont me montrer que je me trompe depuis le début. Voilà. Si je croyais à 100%, rien ne ferait changer d'avis. C'est embêtant. Donc, c'est intéressant de penser, de dire, tiens, cette information-là, à quel point j'y crois? Parce que des fois, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne croit pas vraiment, des choses qu'on croit trop, etc. C'est intéressant de réfléchir là-dessus. D'où le côté méta. Oui, c'est ça. Exactement, bah, c'est ça. C'est un peu ce que je fais. Il y a un vulgarisateur sur YouTube qui s'appelle Hygiène Mentale, que je vous conseille, qui lui fonctionne comme ça sur des thématiques, bah, les OGM, la biologie, le nucléaire. Il a des degrés de confiance, en fait, et en fonction de l'information qui arrive, il fait baisser ou monter son degré de confiance. C'est très intéressant parce qu'aussi, on a tendance à croire vrai ce qu'on a vu en dernier. Ça, c'est compliqué. Donc, si on réfléchit en termes de pourcentage ou de curseur, eh ben, ça nous permet de remettre en perspective toutes les informations qu'on a déjà. Enfin, sur le long terme, donc là, c'est pas... C'est pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Et ça, ça a l'air idiot comme question, mais c'est hyper important. Pourquoi est-ce que je crois que la Terre est ronde, au final? Je ne suis pas allé de l'espace, je ne connais pas d'astronaute, c'est parce qu'on m'a appris qu'elle était ronde. Et qu'il semblerait que beaucoup de preuves montrent qu'elle est ronde. Pourquoi est-ce que je crois que le vaccin fonctionne? Pourquoi est-ce que je crois que le vaccin ne fonctionne pas? L'origine de notre croyance... Et déjà, le mot croyance est très ambigu, parce que croyance, c'est à la fois je crois en quelque chose, je crois que la Terre est ronde, et je crois en Dieu. Et pourtant, c'est deux sens très différents du mot croyance. C'est pour ça que moi, je préfère le mot confiance. Je fais confiance à tel scientifique. La confiance, contrairement à la croyance, ça peut se retirer. Donc le mot confiance me plaît beaucoup. Je fais confiance en la science, je fais confiance en telle institution. Si il s'avère qu'elle est mauvaise, je retire ma confiance. Mais au moins, je ne suis pas dépendant, je ne suis pas dans la croyance dans une institution. Donc là, pourquoi est-ce que je crois et sur quoi je base mes connaissances? Ça s'appelle l'épistémologie, c'est très intéressant. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de croyances qui viennent de notre famille, de notre cercle d'amis. Voilà, tous les politiciens, tous pourris. Pourquoi? Parce que voilà, on est dans une famille un peu contestataire. Peut-être qu'ils sont tous pourris. Je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, mais je dis qu'on se base uniquement sur notre cercle familial proche. De toute façon, la source d'information la plus importante, c'est la famille. À qui est-ce que je fais confiance? Et là, on est sur une échelle, une pyramide qui vaut ce qu'elle vaut, alors pyramide franc-maçon, hein, théorie du complot. En gros, sur des domaines très scientifiques, la rumeur, les témoignages, les anecdotes personnelles, c'est très faible. Mon voisin est mort du vaccin. Je ne dis pas que son voisin n'est pas mort. Je ne dis pas que ce n'est pas triste. Je dis que peut-être qu'il n'est pas mort de ça. Peut-être que ce n'est pas son voisin, c'est le voisin du voisin. Et qu'en fait, il a entendu l'information. Peut-être que si, peut-être que ça. Alors, faites attention quand vous débattez avec quelqu'un qui vous dit ça, parce qu'il peut être piqué à vif si vous dites « mais ça, ça ne me suffit pas. Ça, je n'y crois pas. » Parce qu'il va penser que vous ne croyez pas lui. Si quelqu'un, je ne sais pas, est anti-vaccin et me dit « mais moi, je suis quelqu'un qui est mort du vaccin », et que je dis « bah, je pense que tu dis n'importe quoi », il va être vexé. Mais par contre, dans ma réflexion personnelle, moi, ça ne me suffit pas. Si quelqu'un me dit « j'ai vu un extraterrestre », ça ne me suffit pas pour croire aux extraterrestres. Voilà. Il y a un autre truc que je n'ai pas mis là, c'est qu'en fait, plus l'affirmation est extraordinaire, plus la preuve doit être extraordinaire. Si quelqu'un me dit « tiens, j'ai vu ta mère dans la rue, ma mère habite à Lyon, c'est cohérent, je lui fais confiance. » S'il me dit « j'ai vu ta mère se faire enlever par des extraterrestres », c'est plus extraordinaire, donc je vais avoir tendance à vouloir plus de preuves, genre « appeler ma mère ». Ok ? Donc ça, c'est un point important. Ensuite, il y a la parole d'expert. Et vous voyez que la parole de l'expert, elle n'est pas tout en haut. La parole de l'expert, c'est « je suis un scientifique dans un domaine, je dis quelque chose, croyez-moi ». La plupart du temps, ça suffit. Si un pilote d'avion vous dit comment fonctionne un avion, vous pouvez y croire. Si un garagiste vous dit comment fonctionne votre voiture, vous pouvez y croire. Après, vous pouvez vous dire « il veut m'entuber ». Auquel cas, vous allez chercher d'autres paroles d'experts sur le même sujet. Et là, c'est ce qu'on a vu sur le Covid, par exemple, où il y avait un expert qui pensait ci et un expert qui pensait ça. Et là, c'est plus compliqué. C'est pour ça que moi, je ne vais pas blâmer les personnes qui ne savaient pas, qui étaient perdues sur le vaccin, parce que je pense que les médias sont responsables de beaucoup de choses. On mettait en avant des experts qui étaient en contradiction avec leur père, donc les gens qui étaient ivres, pour diverses raisons. Mais forcément, ça crée du doute. Et là, moi, ma logique à moi, c'est un mot qui fait très peur, c'est que je me base sur le consensus scientifique. Le consensus scientifique, donc consensus, ça fait un peu mou, mais c'est très intéressant quand on y réfléchit deux secondes. Par exemple, il s'avère que 99% des experts, des scientifiques, experts c'est un mot que j'aime pas, des scientifiques qui bossent sur le réchauffement climatique pensent qu'il est là et qu'il est dû à l'homme. Moi, je n'ai pas envie d'y croire, je n'ai pas envie qu'il y ait un réchauffement climatique. Mais si 99% des scientifiques qui bossent sur le sujet sont d'accord sur ce point-là, mon propre raisonnement ne vaut pas grand-chose. Donc j'admets que c'est vraisemblablement le cas, même si 1% des scientifiques disent le contraire, parce qu'on va toujours trouver 1% des scientifiques qui disent le contraire. Sur le vaccin, pourquoi j'y crois ? Parce qu'une grande majorité des scientifiques qui bossent là-dessus pensent que le vaccin est efficace. Donc soit ils sont tous corrompus par Big Pharma, même s'ils viennent de pays différents, etc., soit c'est peut-être moi qui ai des préjugés sur les vaccins. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle des études et des méta-études. C'est juste sur quoi est-ce que les scientifiques basent leurs connaissances. On peut parler de Didier Raoult une seconde ou ça va être trop polémique ? Je ne vais pas vous dire, enfin peut-être que vous aimez bien, mais moi, ce que je reproche à Didier Raoult, ce n'est pas tant qu'il soit un scientifique, c'était un brillant scientifique. Il a découvert ce qu'on appelle des gyrus, c'est des virus géants. Il est reconnu dans le monde entier. Mais je trouve que sur la pandémie, il n'a pas été top, notamment parce qu'en fait, il basait sa conviction que la chloroquine fonctionnait, puis l'hydroxychloroquine, d'abord sur son feeling. Or, bah, il a beau être très bon, c'est pas mal quand il y a une nouvelle maladie de faire des études. Et après, ces études que j'ai lues étaient très bancales. Un exemple très simple, il avait pris deux groupes de personnes, un groupe avec son traitement, un groupe sans son traitement, et il s'avère que le groupe avec son traitement allait mieux. Oui, mais deux groupes avec son traitement avaient une moyenne d'âge de 40 ans, et le groupe sans traitement avait une moyenne d'âge de 65 ans. Or, on savait depuis très longtemps que l'âge est un facteur très aggravant pour les risques de la maladie. Donc peut-être que c'est à cause de cette différence d'âge et pas grâce à son traitement que ça fonctionne. Et ça, moi, ça me pose souci quand une parole scientifique aussi renommée se base sur des études qui sont bancales. C'est pour ça que c'est important qu'un scientifique puisse dire d'où il tire ses connaissances. On est encore une fois sur l'épistémologie. Même si vous êtes scientifique dans un domaine très pointu, sur quoi vous basez votre connaissance ? Le problème, c'est que tout le monde n'est pas armé pour lire des études scientifiques. Surtout qu'elles sont souvent en anglais. Ça, c'est un autre souci. Et voilà. Et la méta-analyse, c'est justement une compilation de toutes les études sur un domaine pour voir le consensus de la science. Ça va ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec mon raisonnement sur Didier Raoult, sur n'importe quoi ? Vous pouvez, j'ai aucun souci avec ça. Mais en tout cas, c'est comme ça, moi, que je raisonne et que j'essaie d'agrémenter des preuves. Si j'ai ce temps, j'essaie de lire les études, si je peux les lire, si je peux les comprendre. Sinon, je fais confiance à la majorité des scientifiques qui bossent sur un sujet. Petite parenthèse, si dans une émission, etc., le descriptif d'une personne, c'est expert, fuyez. Expert, moi, je peux être expert en géologie, si vous voulez, demain. Je peux. Ce n'est pas un nom qui est protégé. Par contre, je ne peux pas être doctorant, parce que doctorant, il faut avoir fait un doctorat. Mais expert, n'importe qui peut être expert en n'importe quoi. Spécialiste, c'est pareil. Doctorant, chercheur, ça, c'est des mots qu'on ne peut pas dire au hasard. D'ailleurs, plusieurs fois, quand je fais des interventions, on met sur la fiche Antonin, chercheur en sciences cognitives. Je dis, non, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas doctorant, je suis diplômé, parce que j'ai un master. Ce n'est pas pareil. Donc ça, c'est des mots qu'on ne peut pas utiliser à la légère. Donc expert, méfiez-vous. Et enfin, le dernier truc le plus important, soyons modestes. Il a été prouvé que plus on pense qu'on n'est pas sensible à la pub, plus on a des chances de se faire avoir par la pub. L'excès de confiance, il n'y a rien de pire. Mark Twain disait, si vous voulez manipuler quelqu'un, allez voir et dites-lui qu'il vient de se faire manipuler. Voilà. Mettez-le en confiance et après manipulez-le. Ou les vendeurs qui vont dire, quand vous rentrez dans un magasin, les vendeurs vous disent, bon, vous, je sais qu'on ne peut pas vous la faire. Il veut vous la faire. Il vous flatte, il veut vous la faire. L'excès de confiance est mauvais et sur les réseaux, le problème, c'est que c'est vous, enfin, vous avez la parole, vous êtes acteur, vous êtes formidable. C'est très bien, vous l'êtes certainement. Mais l'excès de confiance empêche de se remettre en question. Et je pense que la modestie peut aider à prendre du recul, à passer en analytique, à avoir conscience de nos biais, de nos influences et moins se faire avoir. Si on sait qu'on peut se faire influencer, statistiquement, on a moins de chances de se faire influencer parce qu'on est plus sur la défensive, tout simplement. OK ? Combien de temps est-ce qu'il nous reste ?
20 minutes.
Très bien. Pour conclure, ce que je vous propose, ça va jusque-là ? Vous avez des questions ? Oui, non ?
Moi, je trouve que là, sur les monter avec ça, c'est un peu compliqué quand même. Enfin,
c'est-à-dire ?
On revient tout à l'heure à se dire, ben voilà, de la flemme, le temps, enfin, on dit qu'il faut un pourcentage, trouver le pourcentage de spécialistes. Enfin,
bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, mais c'est compliqué. Ah, mais c'est très compliqué. C'est ce que vous voulez dire, en fait, c'est que c'est plus compliqué que simplement... Oui, non, de toute façon, je n'ai pas...
Alors,
mais j'ai pas de solution miracle, je suis désolé. Et si quelqu'un... Alors, autre adage que j'ai, si quelqu'un vous propose une solution miracle, un problème compliqué, il vous ment. Il vous ment. Voilà, tout simplement. Donc, non, mais moi, je n'ai pas de solution miracle. C'est un travail sur le long terme. Mais je pense que ça, c'est mon meilleur conseil, en fait. C'est qu'en fait, soyons modestes, ayons conscience de nos influences, ayons conscience du fonctionnement de notre cerveau et de comment est-ce qu'il peut se faire avoir. Si je sais que, par exemple, je suis tête en l'air, je vais prendre des notes. Si je suis persuadé que je ne suis pas tête en l'air, je vais oublier des choses. Je dis ça parce que je suis tête en l'air. Si je sais que j'ai un mauvais sens d'orientation, je vais prendre une carte. Si je suis persuadé que je suis parfait, je vais me perdre. C'est pareil pour les biais cognitifs. Il y a des sujets, je sais que je suis épidermique. Je vais réagir au quart de tour. Et ben, je me dis, tu le sais. Donc, même si tu as très envie de partager, ça va t'apporter des soucis, donc prends du recul. Ce que j'aime bien de cette idée, c'est que c'est un moyen de ne pas propager des fake news, mais aussi de mieux se connaître. Ça, c'est quand même pas mal. Donc, c'est un peu ma méthode. Et après, sur à qui faire confiance, déjà, le mot faire confiance me semble très important. Faire confiance, c'est pas croire. Et faire confiance à des gens qui ont des compétences. Voilà, vaut mieux apprendre à conduire un avion avec un pilote d'avion que quelqu'un qui fait des jeux vidéo. Il est plus compétent. Et vaut mieux écouter 10 pilotes d'avion qui disent la même chose qu'un pilote qui dit le contraire, parce qu'il y a plus de chances que les 10 aient raison, etc., etc., etc. Alors moi, j'ai un a priori très positif sur ces différentes choses pour une raison très simple, c'est que généralement, déjà, leur format, c'est des longs articles. Donc un long article n'est pas forcément de l'émotion. L'émotion, ça va être un article très court, très putaclic, comme on dit. C'est sourcé, généralement. Ça, c'est un gage de confiance. Ça ne veut pas dire que tout article sourcé est bon, mais tu dis, OK, je peux vérifier l'information. Un article sourcé, déjà, j'aime bien. On va voir ça juste après. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est intéressant, c'est que ces articles de debunking, ils peuvent convaincre une personne. Par exemple, je ne sais pas, le vaccin a tué des gens, et un article dit, ben non, ce n'est pas vrai parce que ça. La personne qui vit ça peut changer d'avis, mais au bout de 15 jours. C'est le temps qu'il faut pour que le cerveau accepte qu'il s'est trompé, etc. Ça, c'est intéressant. Ça peut paraître déprimant, mais c'est intéressant et c'est logique. Vous, je suis prêt à parier que vous n'avez jamais changé d'avis d'un coup en pleine conversation avec quelqu'un. On rentre chez soi, on y réfléchit, on change d'avis. Pourquoi c'est intéressant ? Ça veut dire que quand vous débattez avec quelqu'un ou vous échangez sur un sujet sensible et qu'il dit « non, je ne te crois pas », ça ne veut pas dire que vous n'avez pas planté une petite graine. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait réfléchir, que vous l'avez amené à réfléchir. Donc, et ces genres d'articles qui sont moins vus que les fake news peuvent jouer là-dessus, peuvent apporter des graines de réflexion et amener la personne à réfléchir en mode analytique sur des sujets et pas juste suivre son intuition. D'autres remarques ? Ben pour conclure, je vous propose de faire un petit exercice. Un petit exercice pratique. On va voir cet article pas du tout anxiogène qui est sorti il y a quelques années sur Sud-Ouest, je crois. Ouais, Sud-Ouest. Donc, qui est un journal très respectable. Alors, E-Danger, j'avoue, c'est moi qui l'ai mis. Mais ce titre-là est authentique. 85% des 10-15 ans sont séduits par des théories du complot, selon une étude. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça ? Alors, c'est, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors déjà, première chose, si vous voyez un article de journal qui commence par « selon la science, selon une étude », généralement, la science n'a jamais dit ça. C'est complètement douche. Tu n'as pas besoin de dire « selon la science » si tu vas prouver un truc qui est vrai. Moi, déjà, ça me fait peur. 85%, c'est beaucoup. 10-15 ans, théorie du complot, où va la jeunesse ? Biais d'émotion, mettons ça de côté. Si je suis persuadé que les jeunes sont des idiots décérébrés, je vais me dire bah, « tiens, j'avais raison ». Ce n'est pas ce que je pense. Hein. J'écris des bouquins pour la jeunesse. Donc, Mais voilà. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'étude et on va voir un petit peu de quoi il retourne. « 85% des 10-15 ans séduits par la théorie du complot, selon une étude. » Bon, j'ai toujours très peur, mais je vais vérifier. Le groupe d'édition Milan Presse a commandé une étude sur la perception de l'actualité des 10-15 ans. Ok. Donc là, ce que je vois déjà, c'est que ce n'est pas Sud-Ouest qui a fait l'étude. Ils ne font que rapporter l'information qui vient du groupe d'édition Milan Presse. Et donc, on est sur ce qu'on appelle une source secondaire. Une source secondaire, c'est une source qui n'est pas la source d'origine. Et comme on l'a vu, plus on partage l'information, plus on va déformer l'information. Et donc là, tel un saumon, on va remonter à la source. Et ça tombe bien, cet article indique sa source. On va cliquer. On arrive donc sur ce qu'on appelle la source primaire, qui est la source Milan Presse. Enquête Milan Presse CSA, 85% des adolescents de 10 à 15 ans sont séduits par des thèses conspirationnistes. On est sur la même chose, théorie du complot, thèses conspirationnistes, ça c'est bon. Et maintenant, creusons un petit peu pour voir si c'est vrai ou pas. Bon, bien sûr, si je vous fais lire cet article, vous avez une idée. L'enquête réalisée par Milan Presse est inédite sur cette tranche d'âge. Si la population des jeunes adultes est bien documentée, ce n'est pas le cas de celle des adolescents. Déjà là, j'ai un premier souci. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? Sur quoi ils se basent ? Ouais, non. Enfin, oui, mais c'est pas ça. Moi, dans cette phrase-là que je viens de surligner, il y a un truc qui me gêne. Si la population des jeunes adultes 18-35 ans est bien documentée, ce n'est pas le cas de celle des adolescents de 10 à 15 ans. Alors, effectivement, il y a un gap entre 15 et 18. Moi, ce que je vois aussi, c'est que les jeunes adultes, de 18 à 35 ans, je suis encore un jeune adulte, est bien documenté. Donc, en gros, tout va bien pour eux. Pourquoi c'est pas ça qu'on a mis en avant ? Pourquoi on ne met en avant que les 10-15 ans, où là, c'est une catastrophe ? On revient, bien sûr, sur l'appel à l'émotion, il faut faire peur, et à l'effet de cadrage que j'ai dit au début, on ne va montrer qu'une partie d'information pour influencer. Il nous manque une information. Il nous manque l'information où les 18-35 ans, tout va bien.
Vous voulez peut-être simplement dire qu'il y avait des études qui existaient pour les 18-35 ans et pas pour les 10-15 ans.
Alors, peut-être que c'est ça, effectivement. Il faudra que je vérifie. Effectivement, c'est peut-être ça. Peut-être que là, c'est vraiment que sur les 10-15 ans. Je vois qu'il y a un... Je m'enseignerai. Oui, bah vous avez raison. Bon, bah très bien. Merci de ce fact-checking. Donc, on va rester sur les 10-15 ans. On va rester sur les 10-15 ans. Et on va arriver là-dessus. 9 adolescents sur 10 considèrent qu'il est facile de déformer une information. Là, j'ai un premier problème. C'est que j'estime qu'il est aussi possible, facile, de déformer une information. On l'a vu avec la radioactivité, etc. La déformation, c'est tout à fait possible. Présenté comme ça, ça semble dire que c'est un souci. C'est problématique. Que c'est la preuve que les jeunes ne font pas confiance à la science, aux études, etc., et qu'ils sont sujets aux théories du complot. Pour moi, on est sur deux choses différentes. Se méfier de l'information, avoir un doute raisonnable, c'est très bien. Les théories du complot, c'est autre chose. Donc là, cette phrase-là me gêne. Après réception d'une information, il arrive à 61% de s'interroger sur la véracité d'une information. Pareil, je pense que c'est tout à fait bien de s'interroger si c'est vrai ou pas. présenté comme ça, ça donne l'impression que les jeunes croient au théorie du complot. C'est pas la même chose. 55% démettent l'hypothèse qu'il s'agit d'une fake news. C'est pareil, c'est très bien de vérifier, très bien de se méfier. Encore une fois, ça me pose souci. Les adolescents recherchent rarement leurs sources. Alors ça, c'est peut-être pas bien, mais personnellement, je ne le fais pas toujours non plus. Voilà. Rarement, moi, j'en fais partie, très clairement. On arrive sur le sujet qui fâche. Une forte perméabilité aux théories du complot. En termes de croyances, un quart des 10-15 ans estiment qu'il est possible que des médias nous manipulent. 23 croient au fait que le ministère de la Santé et des laboratoires sont de mèche pour nous cacher la vérité. Alors, il est possible que les médias nous manipulent. Je suis toujours d'accord avec ça, donc je ne vois pas en quoi c'est un souci. 23% pensent que le ministère de la Santé et les laboratoires nous cachent la vérité. Bon, là, on s'approche plus d'une logique conspirationniste, c'est-à-dire un groupe de personnes qui nous manipulent pour des intérêts personnels ou pour être malfaisants. Mais c'est 23%. Et là, on arrive sur la phrase incroyable que 13% pensent que des sociétés secrètes gouvernent le monde. Là, on est sur de la pure théorie du complot. Donc, c'est imaginer que des groupes sans preuve nous manipulent pour leurs intérêts. C'est la définition d'une théorie du complot. Mais c'est 13%. Alors, devinez à quel pourcentage est la moyenne nationale. 15%. Grosso modo, on est sur la même tranche. Donc, pourquoi cibler sur les adolescents? Je ne sais pas. On va voir. Peut-être qu'il y a une intention secrète. Au final, 85% envisagent l'existence d'au moins une théorie du complot. Réponse, c'est possible ou c'est peut-être possible. Et là, j'ai encore un souci. C'est que c'est possible, ça ne veut pas dire oui. Si moi, vous me demandez, est-ce que vous pensez que Macron est un extraterrestre? Non. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il soit un extraterrestre? Oui, c'est possible. Je ne pense pas, mais c'est possible. Un scientifique, d'ailleurs, vous dira toujours c'est possible. Il ne va jamais être affirmatif. Donc dire c'est possible au lieu de oui, ça déforme la réponse. Ça induit en erreur. C'est un peu de cliché du sondage que m'a fait, quoi. Voilà. Est-ce que c'est possible que vous votiez pour tel candidat, même si vous le détestez? C'est possible, mais je ne le ferai pas. Voilà. C'est très compliqué. Et un tiers croit à au moins une théorie du complot. Réponse, c'est possible. Parce que là, les 85%, c'est possible ou c'est peut-être possible. C'est peut-être possible, c'est pas oui. Donc là, je me dis, OK, ce sondage, il est fait avec les pieds. Mais est-ce que je peux être un peu conspirationniste et me dire, il y a peut-être une intention derrière? Eh bien, il s'avère que Mille en Presse lance sa chaîne YouTube Info ou Mytho. Face à ces résultats inquiétants, appel à l'émotion, Mille en contre-attaque et lance sa chaîne d'esprit critique. Donc, en fait, on peut supposer que le sondage était un peu orienté pour dire, en gros, danger, 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 les jeunes sont complètement soumis aux théories du complot, mais rassurez-vous, j'ai la chaîne YouTube. Ça, c'est un peu le virus et antivirus, quoi, voilà. Mais ce qui est embêtant, c'est que cette enquête CSA faite avec les pieds a été reprise par des médias qui l'ont propagée comme ça, et ça s'est diffusé, et on en a parlé sur France Inter, etc., sans vérifier la véracité du truc. La leçon, c'est méfions-nous des informations, même si elles viennent de journaux, méfions-nous de nos appels à l'émotion, de nos biais de confirmation, et vérifions l'info avec recul. Ou même aujourd'hui, moi, j'ai pu apprendre quelque chose, effectivement, que je n'avais pas vu, donc c'est très intéressant. Donc méfiez-vous, en gros, de ce que vous voyez, et méfiez-vous de votre cerveau, qui parfois va vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Ben voilà, c'est fini pour moi, avec un timing redoutable, j'ai l'impression. Alors, j'ai un bus train dans une demi-heure, mais si vous avez une ou deux questions, on peut y répondre rapidement. J'espère que ça vous a plu, déjà. Pas mal.
Développé aussi parce que depuis plusieurs années on est une société de l'image et de la surinformation et forcément ça prend des proportions non ?
Oui, vous avez sûrement raison. Après, alors
images trompeuses,
oui, bien sûr. Après, il y a toujours eu ça. Le mot fake news est récent, mais voilà. Et les théories du complot, c'est présent depuis très 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 longtemps. Et les grandes époques de théories du complot, c'est pas maintenant, c'était au début de l'ère industrielle et durant la guerre froide aux États-Unis, où les journaux avaient chaque jour, des milliers de lettres de dénonciation de voisins communistes. Donc en fait, moi je pense, de ce que je dis, c'est que le cerveau, de toute façon, est calibré pour croire à des théories du complot. Je suis sûr que vous tous, et moi y compris, on croit au moins à une théorie du complot. Pas la Terre plate, mais ils nous manipulent, etc. On y croit un petit peu. Parce que le cerveau est calibré comme ça. Pour une raison très simple, et on va finir là-dessus, lors de l'évolution, donc l'être humain, théorie d'évolution, c'est passé d'un ancêtre commun au chimpanzé à l'Homo sapiens, mais le cerveau a aussi évolué d'une certaine manière. Alors, à votre avis, quand on était dans la savane, qu'est-ce qui était préférable pour survivre ? Penser qu'il n'y a pas de danger ou penser qu'il y a trop de danger ? Penser qu'il y a trop. Parce que s'il n'y a pas de danger, qu'il y en a un, on meurt. S'il y a trop de danger, qu'il n'y en a pas, on est toujours vivant. On est parano, mais on est vivant. Donc en fait, certaines théories laissent penser que le cerveau est calibré pour croire aux théories du complot parce que c'est un moyen de survie. Il vaut mieux trop croire à des théories du complot qui peuvent nous poser souci plutôt que de pas assez y croire. Le problème, c'est que le cerveau n'arrive pas à comprendre que trop croire à des théories du complot, ça peut avoir des effets négatifs sur la société, etc. Mais ce danger-là est beaucoup trop évanescent que le danger de « on nous manipule avec du vaccin », par exemple. C'est une des raisons. Donc je pense que la société n'aide peut-être pas, l'image n'aide peut-être pas, ça je suis d'accord. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je pense que c'est une partie, en partie vrai. Mais en fait, ça ne fait que jouer sur une biologie qu'on a en nous et qui fait qu'on va avoir naturellement tendance à croire à ce genre de choses. Alors, vous voulez vraiment qu'on débatte de ce sujet-là en deux minutes ? Je ne sais pas à quel point ça peut impacter. Et après, il y a tellement d'aspects. Il y a l'aspect social, il y a plein d'autres aspects. Mais en tout cas, la recherche du sens, on peut calquer ça là-dessus. La recherche de sens, mais c'est humain. Au-delà des théories du complot, pourquoi je suis là ? Religieux ou pas, on se pose la question. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Ah oui, je ne démarque pas, si vous voulez, à la fois pour, par rapport à mon livre, mais si vous voulez me contacter pour me poser des questions sur les fake news, sur Interfeed, il y a mon site et je suis sur 4 réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, et j'avoue. Donc n'hésitez pas, les marque-pages sont là, faites-vous plaisir, ils sont gratuits, bien sûr. Besoin, je ne sais pas, mais je pense que moi, c'est un sujet qui me passionne. Et je pense qu'encore une fois, plus on a conscience des limites de notre cerveau, plus on peut faire attention à ce qu'on gobe. Donc voilà, il y a un aspect, moi ça m'intéresse, et au-delà de ça, je pense que c'est un sujet qui est intéressant à aborder en société. Et aussi l'idée qu'il faut arrêter de penser que c'est juste, je sais pas, les réseaux coupables et les journaux ne mentent pas. C'est plus compliqué que ça. Les journaux font, c'est de la fake news. Par contre, on peut avoir des outils pour nous-mêmes réfléchir à ça, et ça me semble intéressant. J'ai pas trop parlé aussi des... Ouais. Non, mais c'est ça, des structures sociales qui vont influencer ça. Plus on discrimine les gens, plus ils vont croire aux théories du complot. Plus des gens sont inquiets pour l'avenir, plus ils vont croire aux théories du complot. Donc ça, voilà, ça, c'est donc une société stable et apaisée génère moins de théories du complot. Et ça, je pense qu'il faut y penser aussi en tant que citoyen.
Merci.
Je vous en prie.